Et on retrouve Antoine Mercier pour les informations. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les enjeux du référendum de dimanche en Grèce se précisent un peu. Yanis Varoufakis assure qu'il ne sera plus ministre des Finances de la Grèce si le oui l'emporte. Le président du Modem, François Bayrou, estime lui qu'un non signifierait l'enclenchement de la sortie de la Grèce de l'euro. Comment s'oriente la campagne sur place? On retrouvera Angélique Kouronis à Athènes. Au lendemain d'une vague d'attentats sans précédent qui a fait des dizaines de morts dans le Sinaï, l'Égypte se dit déterminée à éradiquer le groupe dans la péninsule. Précision avec Eric Biegala. Le rapporteur public du tribunal administratif de Grenoble, dont l'avis est généralement suivi, demande l'annulation de l'un des arrêts préfectoraux qui était indispensable au projet controversé de village de vacances Center Park qui devait voir le jour sur 200 hectares à Roibon dans l'Isère. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, qui demande que soient sauvés les guignols de l'info. L'émission satirique de Canal+, diffusée depuis 88, serait menacée de disparition à la prochaine rentrée. Enquête dans cette édition avec Antoine Maret, l'invité du journal. Axel Poniatowski, député Les Républicains du Val d'Oise. Dans la dernière partie, Caroline.
Une invitation à une exploration méliso-philosophique. Nous allons parler de l'animal qui fait au moins 4 fois dans l'année la une des journaux. Un animal qui possède à peu près toutes les qualités. Talent politique, prudence, sens de la justice et de l'obéissance, respect de la hiérarchie, douceur, frugalité, solidarité, bref, à peu près toutes les qualités. Et qui comble des merveilles, fabrique le meilleur nectar qui soit. Vous l'avez compris, nous parlerons de l'abeille en compagnie des frères Tavoyot, Pierre-Henri et François.
La situation s'est un peu clarifiée dans la crise que traverse l'Europe au sujet de la Grèce. Hier encore, la France et l'Allemagne tenaient des discours opposés sur ce qu'il convenait de faire avant le référendum de dimanche. François Hollande assurait qu'il fallait trouver un accord dès cette semaine. Angela Merkel soutenait, elle, qu'il fallait attendre maintenant les résultats de la consultation. Au final, donc, c'est la ligne allemande qui l'emporte. Le ministre français Michel Sapin, qui hier appelait à la négociation, déclare ce matin qu'on ne peut pas passer un accord avec quelqu'un qui vous dit non. Et pendant ce temps, donc en Grèce, la campagne est évidemment lancée. Elle se déroule dans une atmosphère assez dramatique. Angélique Kouronis, bonjour.
Bonjour. Elle se déroule dans une atmosphère très tendue, je dirais.
Une pression considérable, en tout cas, semble s'exercer sur les citoyens, notamment pour les appeler à voter oui.
Mais oui, parce qu'en fait, un référendum, c'est prendre un temps de pause dans le débat politique, répondre à une question, prendre le temps d'avoir les avis contraires. Et là, en fait, c'est pas du tout le cas. On se trouve dans un cas de figure d'une urgence avec la pression des banques qui sont fermées et les gens sont extrêmement inquiets. Là, je suis dans la rue et en loup, et il y a des gens qui votent oui, qui apostrophent ceux qui votent non. Il y a des distributions de tracts et à l'opposé des déclarations du Premier ministre hier qui disait que quel que soit le résultat, ce gouvernement allait mener les négociations lundi, eh bien, le ministre des Finances lui a dit que finalement, le gouvernement pourrait démissionner en cas de oui et il le ferait dans un esprit de coopération avec ceux qui prendraient la relève. Il y a eu beaucoup de réactions et puis finalement, Yanis Varoufakis lui a dit, eh ben, écoutez, moi je vais démissionner et puis je ne sais pas ce que feront les autres. Et ça, c'est vraiment la preuve de tension grandissante, non pas au sein de la population, mais aussi au sein du Syriza, le parti de la gauche au pouvoir. Alexis Tsipras lui maintient sa position que, quel que soit le résultat, il respectera ce résultat du référendum et il continuera à mener les négociations.
Voilà, que se passera-t-il en cas de oui, en cas de non? C'est évidemment la question. Angélique Kouronis, merci beaucoup pour ce reportage donc dans la rue à Athènes. J'ajoute que le président du Modem, François Bayrou, disait ce matin qu'un non au référendum organisé en Grèce signifierait l'enclenchement de la sortie de la Grèce de l'euro, peut-être même de l'Union européenne. C'est aussi un peu ce que disait hier Nicolas Sarkozy. En tout cas, l'enjeu de ce référendum apparaît de plus en plus nettement et il pose évidemment la question du fonctionnement politique, mais aussi peut-être démocratique de l'Europe. Stéphane Robert.
Oui, c'est une véritable question de fond finalement que pose ce référendum qui nous amène à un point de rupture. Même si ça n'était peut-être pas l'intention de départ d'Alexis Tsipras, ses tergiversations sur le maintien ou non de ce référendum, sur son appel à voter non, puis éventuellement à voter oui pour finalement revenir au non, montrent qu'il voulait avant tout faire pression sur les négociations. Mais du fait de l'intransigeance des Européens emmenée par Angela Merkel, qui répond à la fermeté d'Alexis Tsipras, qui ne veut pas non plus céder, on en arrive à ce point de rupture qui devrait déterminer la fin du match. C'est un peu comme si on était autour d'une table de poker. Tsipras a fait tapis avec ce référendum, ce à quoi l'Allemagne et ses partenaires européens ont répondu banco, tapis également. Car il y a désormais deux scénarios possibles. Soit c'est le oui qui l'emporte, oui au plan européen proposé à la Grèce. Et dans ce cas, Tsipras est désavoué, comme le général de Gaulle en France en 1969. Conséquence, on voit mal comment il pourrait ne pas démissionner. Soit en revanche, c'est le non qui l'emporte. Tsipras est alors conforté dans sa position et les Européens mis au pied du mur. Ils devront alors décider soit de céder à ses exigences, soit d'organiser la sortie de la Grèce de la zone euro. Dans tous les cas, cette situation pose la question du fonctionnement démocratique de l'Europe et de la légitimité politique des décisions prises à l'échelle européenne. Car ce qu'a dit le peuple grec en désignant Tsipras comme Premier ministre, c'est qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'on voulait lui imposer. Et ce que répond l'Europe, c'est qu'on n'a pas besoin du peuple grec pour décider. On a donc d'un côté une machine européenne qui dit qu'il faut appliquer les traités sans pouvoir y déroger, et de l'autre une population qui demande à ce qu'on s'adapte à la situation. Et au-delà du fait de savoir qui va l'emporter, cette situation nous montre à quel point, à travers la construction européenne, on a détaché le pouvoir de décision désormais supranational de sa légitimité démocratique qui est restée cantonnée à l'échelle de l'État-nation.
Stéphane Robert, merci beaucoup et bonjour Axel Poniatowski.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui se joue? Avant de savoir votre opinion sur la perspective du oui en cas de oui, en cas de non, Nicolas Sarkozy reprochait hier au gouvernement grec de refuser toute attitude raisonnable. Madame Lagarde disait aussi quelque chose comme ça en affirmant qu'elle voulait discuter avec des adultes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, notamment le fait que c'est Tsipras lui-même qui a suspendu la Grèce de la zone euro, qui a fait sortir la Grèce de la zone euro?
Oui, c'est clair. C'est-à-dire, Tsipras est un joueur. Et on voit qu'en ce moment, il est en train de perdre la main, il est en train de perdre les pédales. Je suis assez d'accord avec l'analyse qui consistait à dire qu'en réalité, il voulait utiliser ce référendum comme une arme, comme un moyen, comme un outil pour mieux négocier. Sauf que ça se passe pas du tout de la manière dont il l'a prévu, et que la logique démocratique partout, dans n'importe quel pays, voudrait que si aujourd'hui le non l'emporte en Grèce dimanche prochain, à ce moment-là, la Grèce sorte de la zone euro. Puisque finalement, c'est ça la question. Et que si le oui l'emporte, et autrement dit que Tsipras soit déjugé, eh bien, il démissionne. Dans n'importe quel pays démocratique, c'est ainsi sauf que, en Grèce, et avec M. Tsipras, on sait absolument pas ce qui peut se passer. Parce qu'il dit tout et son contraire. Il dit que finalement la Grèce n'a pas vocation à sortir de la zone euro. Il dit que dans tous les cas de figure, il faut se remettre autour de la table de négociation à partir de lundi. On a l'impression qu'il le dit quel que soit le résultat. Enfin, tout ça, franchement, n'est pas sérieux.
Vous dites aujourd'hui, il y a un problème Tsipras aujourd'hui, qui est quand même un élu d'un pays d'Europe.
Oui, d'accord, mais enfin, c'est un...
Est-ce qu'on dirait ça d'un autre chef de gouvernement?
Écoutez, il a été élu, personne ne remet en question son élection, mais par ailleurs, il a quand même voulu être Premier ministre, hein, puisqu'il s'est présenté pour être Premier ministre. Vous comprenez, on ne remet pas les compteurs à zéro chaque fois qu'il y a un nouveau Premier ministre ou un nouveau gouvernement. En 2017, il va y avoir une élection à la présidence en France, d'accord? La dette de la France, c'est 2000 milliards. Bien, et bien, le nouveau président de la République en France, à partir de 2017, il repart pas avec une dette de zéro, n'est-ce pas? Il assume, si vous voulez, ce qu'est la situation du pays. Pour Monsieur Tsipras, c'est pareil. Et c'est pas parce que Monsieur Tsipras est d'extrême gauche, c'est pas parce que il n'approuve pas, il est contre l'économie de marché, il est contre le libre-échange, etc. Ça ne lui donne aucun droit à repartir à zéro, parce que en attendant, c'est quand même nous tous qui avons maintenant depuis 12 ans fait vivre la Grèce. 320 milliards d'euros de dette en Grèce, c'est quand même pas rien. Et ce que disent les pays de l'Union européenne, ils disent la fuite en avant, ça suffit.
D'accord. Maintenant, conséquence du non. Le sénateur, l'un de vos amis des Républicains, Serge Dassault, dit attention, il y a un risque d'envoler des taux d'intérêt qui peut être catastrophique pour la France, donc en cas de sortie de la Grèce. Et puis, il y a cette déclaration de l'ancien président de la Commission, Romano Prodi, la Grèce ne sortira pas de la zone car ce sera un échec trop grave pour l'Europe. Prodi met en garde contre le risque qu'Athènes ne devienne notre Sarajevo. Est-ce qu'on en serait
là?
Moi,
je suis pas sûr, quels que soient les résultats, que la Grèce sorte de la zone euro. Parce que ce serait un tel cataclysme pour la Grèce, pas pour la zone euro, mais pour la Grèce, que je pense que même si le non l'emporte, M. Tsipras trouvera bien une volte-face quelconque, si vous voulez, pour continuer à négocier, pour une fois de plus se déjuger. Parce que les conséquences de la sortie de l'euro pour la Grèce, c'est la ruine du pays. C'est la ruine des habitants, c'est la ruine des économies. Enfin, tout ne vaut plus rien. Donc, très franchement, je n'y crois pas. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas du tout impossible que le non l'emporte dimanche.
Axel Poniatowski, député donc Les Républicains du Val-d'Oise, vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Je salue notre invité de la dernière partie, Pierre-Henri Tavoyot.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes avec votre frère, donc François, l'invité de notre dernière partie, pour parler des abeilles, les projections philosophiques aussi qu'on a pu faire sur elles. Mais l'Europe, la démocratie, mot grec, on le sait. Qu'est-ce qu'en dit un philosophe, un spécialiste des idées politiques de ce qui se passe en ce moment?
C'est assez d'accord avec l'analyse de votre autre invité. Je pense qu'effectivement, on est dans une situation un peu fausse où on a le sentiment que c'est les peuples contre les administrations. Et en fait, en vérité, c'est des peuples qui discutent avec d'autres peuples. La dette, c'est pas une dette d'organismes financiers, c'est une dette des peuples. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à mettre en scène, et que la totalité de la zone euro est avec effectivement des mécanismes de solidarité qui n'existent pas encore, c'est cela qui doit être mis sur la table.
Pierre-Henri Tavoyot, merci, on vous retrouve donc dans quelques minutes.
Comment travailler ou comment qualifier plus exactement ce qui s'est produit hier dans le Sinaï, attaque terroriste ou offensive terrestre des djihadistes?
Question posée effectivement au lendemain d'une vague d'attentats sans précédent qui a fait des dizaines de morts, on ne sait pas combien, 70 dit-on. Il y a en tout cas de nombreux militaires qui ont été tués. L'Égypte se dit ce matin déterminée à éradiquer le groupe État islamique dans la péninsule. Défi particulièrement difficile, Eric Begala, pour l'armée égyptienne, parce qu'il y a la géographie qui est difficile aussi et l'impact des opérations militaires sur la population locale.
Oui, même si bien sûr il y avait déjà eu des attentats dans le Sinaï, l'ampleur et surtout la coordination des attaques d'hier est sans précédent, puisqu'une quinzaine d'objectifs auraient été attaqués quasi simultanément, si l'on en croit du moins le communiqué de l'État islamique province du Sinaï, publié hier sur Internet. Et il ne s'agissait pas de quelques bombes par-ci par-là, mais bien d'une bataille rangée qui a perduré pendant au moins 6 heures, faisant intervenir côté égyptien hélicoptères d'attaque et chasseurs-bombardiers. Une bataille qui d'ailleurs n'est peut-être pas finie. Ce matin, les F-16 de l'armée de l'air égyptienne étaient toujours en mission au-dessus du Nord Sinaï. La région est peuplée de bédouins. Elle n'est effectivement pas un terrain facile pour l'armée. C'est ce que remarque Hassim Difraoui, politologue germano-égyptien.
L'armée égyptienne, elle connaît pas très bien le terrain. Donc le Nord du Sinaï, il y a des montagnes qui sont très difficilement accessibles, que les bédouins connaissent extrêmement bien, où les djihadistes peuvent cacher des armes, où ils peuvent se cacher eux-mêmes. Et la plupart des soldats égyptiens sont vraiment de conscrits de la plaine, du delta du Nil et de la vallée du Nil, qui connaissent pas du tout cette région et qui sont pas du tout familiers avec le combat à pied dans un désert et dans la montagne très reculée.
L'état-major égyptien donne ce matin un bilan de 100 djihadistes et 17 militaires tués dans les combats d'hier. Les sources hospitalières égyptiennes font, elles, état de pertes beaucoup plus lourdes chez les soldats du Caire, sans compter évidemment les victimes civiles qu'on n'a pas encore dénombrées pour le moment.
Eric Biegala, merci. Axel Poniatowski, sur cette question plus largement et sur Daesh, l'État islamique dont on voit qu'il s'implante à la fois évidemment en Syrie, en Irak, mais aussi en Libye, mais aussi donc dans le Sinaï. Est-ce que cette territorialisation du terrorisme, c'est vraiment un fait nouveau qui est apporté par Daesh?
C'est un fait nouveau, surtout depuis l'implantation du califat islamique, qui contrôle un territoire qui est considérable aujourd'hui, puisqu'il contrôle une partie de la Syrie, la majorité de la Syrie, une partie très importante de l'Irak. On dit même que, sans que ce soit officiel, mais qu'une partie de la Jordanie serait également concernée. Et par conséquent, il est là, il peut s'appuyer sur ce territoire qu'il contrôle.
Vous le qualifiez d'État, alors, vous? Parce qu'il y a une discussion parfois. Est-ce que c'est un groupe?
C'est une forme. Enfin, eux s'appellent le califat islamique. Enfin, ils sont entièrement organisés. Ils contrôlent des puits de pétrole. Il y a des ressources qui sont importantes. Ils contrôlent une partie des populations sunnites de toute la région. Et on voit bien que ce conflit sunnite-chiite est en train de totalement s'exacerber et qu'il y a clairement des erreurs qui ont été commises à la fois par le pouvoir chiite actuellement en place en Irak, dans le rejet, n'est-ce pas, qu'ils ont fait à l'égard des sunnites. Et par conséquent, cette implantation se fait. Je pense que ce qui se passe également dans le Sinaï, il y a bien évidemment les Bédouins qui sont installés, mais enfin, on est juste à proximité des Palestiniens de la bande de Gaza, qui, eux, sont dans une situation totalement désespérée et qui, probablement, sont présents dans cette région.
Axel Poniatowski, merci. On continue cette édition dans l'actualité à l'étranger.
De nouveaux combats ce matin dans le sud du Yémen. 7 rebelles chiites et 5 partisans du gouvernement yéménite en exil ont été tués à Aden.
Oui, Aden, endeuillé hier par des tirs de roquettes Katyusha attribués aux rebelles chiites houthis qui ont fait 31 morts, 103 blessés. Par ailleurs, l'aviation de la coalition menée par l'Arabie Saoudite continue de bombarder. Elle a mené plusieurs raids la nuit dernière encore contre les positions rebelles dans la province, les provinces du nord d'Aden. Et puis l'ONU a décrété son niveau d'urgence le plus élevé pour le Yémen. Pour quelle raison? En fonction de quoi, Mathieu Laurent?
Eh bien, en fonction de la difficulté, la redoutable difficulté qui est l'accès aux zones de conflit. Pas qu'à Aden, dans le sud, mais aussi à Saada, dans le nord. Saada, fief des rebelles chiites houthis, abondamment bombardé par la coalition arabe. Localités dont des centaines de bâtiments sont d'ores et déjà détruits. Sont ciblées des armes lourdes positionnées par la rébellion dans des zones densément peuplées. Des dizaines de morts d'ores et déjà, selon l'ONG Human Rights Watch. Accès aux zones de conflit très compliquées à Aden, à Saada, mais aussi dans le gouvernorat d'Amran, selon le chef de mission de Médecins Sans Frontières que nous avons joint ce matin au Yémen. Il souligne que les patients atteints de maladies chroniques ont de plus en plus de mal à se procurer leur traitement et font appel aux rares structures hospitalières à même de fonctionner qui de facto implosent. Le Yémen est par ailleurs soumis à de lourdes restrictions économiques, importations au plus bas, un embargo en somme. Toute la population est touchée, les cas de paludisme, typhoïde et dengue se multiplient. MSF dit encore parvenir, après de pénibles et interminables négociations avec les belligérants, à se faire livrer en matériel médical, mais MSF se sent seul. Trop peu d'acteurs humanitaires au sens large du terme. L'ONU donc déclare l'état d'urgence maximum afin d'alerter bruyamment les acteurs du conflit et pour relancer des pourparlers de paix en panne. Les derniers en date ont échoué en effet à Genève le mois dernier. Et le Yémen, dont la population se meurt, est à la merci d'unités islamo-mafieuses quand ce qu'il reste de structures politiques est entré en état végétatif.
Merci Mathieu Laurent. Les tractations autour du nucléaire iranien, elles s'intensifient dans l'espoir de parvenir à un accord d'ici à la nouvelle date butoir, donc du 7 juillet. Les ministres des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, le français Laurent Fabius, ainsi que le chef de la diplomatie européenne rejoignent à Vienne les chefs des diplomaties américaines et iraniennes, tandis que le patron de l'AIEA est lui parti rencontrer des responsables iraniens à Téhéran. Axel Poniatowski là-dessus, un petit mot, est-ce que vous croyez que cet accord va être trouvé d'ici le 7 juillet?
Oui, je pense. Je pense que l'accord va être trouvé. Sur ce sujet spécifiquement, j'approuve la fermeté de Laurent Fabius dans la façon dont il a conduit les négociations, parce que je pense que finalement le point sur lequel il a appuyé et sur lequel il a tenu ferme, c'est l'exigence d'avoir des garanties. On peut pas commencer à lever toutes les sanctions en Iran si on n'a pas les garanties et par conséquent les inspections par les inspecteurs qui vont avec que il n'y a pas de production d'uranium enrichi au-dessus.
Donc ces garanties, vous pensez qu'on va les avoir ou qu'on les a déjà?
Je pense que
c'est ce qui va débloquer l'accord.
Je pense que les Iraniens vont finir par accepter de les accepter parce que les Iraniens aujourd'hui ont trop besoin que les sanctions soient levées.
12h48.
Center Parcs de Roibon, acte 3. C'est la troisième fois que la justice se prononçait sur ce projet qui doit voir le jour sur 200 hectares au cœur de la forêt de Chambaran dans l'Isère, mais dont le chantier est bloqué depuis décembre par des zadistes.
Oui, le rapporteur public du tribunal administratif de Grenoble, dont l'avis est généralement suivi, a demandé tout à l'heure l'annulation de l'un des arrêtés préfectoraux qui est indispensable au projet controversé donc de ce village de vacances.
Il faut sauver les guignols de l'info. C'est le président de l'Assemblée nationale qui le proclame ce matin. L'émission satirique de Canal+, diffusée depuis 1988, serait menacée de disparition à la prochaine rentrée.
Voilà, c'est effectivement ce que l'on dit, en tout cas c'est une rumeur pour l'instant, mais Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, affirme que cette émission s'inscrit dans la tradition du fou du roi, avec un côté parfois acide qui amène les politiques à mal réagir quelquefois quand on est la cible, mais cela aère l'actualité, dit-il, et c'est une manière de commenter la politique nouvelle. Metro News croit donc savoir que les guignols de l'info ne retrouveront pas l'antenne de Canal+, la saison prochaine, suite à une décision prise par Vincent Bolloré, le patron du groupe. Ni Vivendi, ni Canal+, pour l'instant, n'ont fait de commentaires, ni démenti, ni confirmation. Interrogé récemment sur France Inter, il faut rappeler que, à propos de l'esprit canal, que Vincent Bolloré avait déploré l'abus de dérision sur cette chaîne. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Décision donc, si elle se confirme, est-ce qu'elle marque, selon vous, une moindre tolérance des pouvoirs publics, économiques, politiques à la satire.
Alors vous avez raison d'utiliser le conditionnel, Antoine, car pour le moment il ne s'agit que d'une rumeur. Et rappelons que les Guignols eux-mêmes avaient annoncé leur fausse disparition en 2000. Il ne s'agissait alors que d'un coup de marketing. Néanmoins, le contexte cette fois est différent. Le créateur de l'Esprit Canal, Alain de Greff, n'est plus. L'actuel patron du groupe n'aime pas la dérision et la moquerie. La direction ne fait pas de commentaires. Tous les signaux semblent donc aller dans le sens de cette rumeur, disparition ou passage à un rythme hebdomadaire. Alors que signifierait une telle décision? Devrait-on y voir une moindre tolérance à la liberté d'expression ou tout simplement la disparition d'un concept un peu éculé? Vincent Bolloré a clairement répondu à cette question. Il n'aime pas que l'on se moque des autres. Mais alors pourquoi supprimer les Guignols tout en maintenant Groland, dont l'émission hebdomadaire semble beaucoup plus subversive, notamment à l'égard des religions? Sans doute parce que Groland tourne en dérision des idées à travers un pays imaginaire, alors que les Guignols s'attaquent frontalement à des personnes en les représentant sous forme de marionnettes. Nadine Borano devient ainsi Robocon, Jean-Pierre Pernaud un poujadiste d'extrême droite, Bernadette Chirac une nymphomane qui se soulage avec son sac à main, François Bayrou un adolescent simplet et j'en passe. Cet humour nominatif et parfois cruel est une vieille tradition française, celle des caricatures, et c'est une tradition qui est clairement en danger.
Antoine Maret, merci. Je vous propose d'entendre un extrait des Guignols où PPD recevait, c'était en février dernier, précisément le nouveau patron Vincent Bolloré.
Monsieur Bolloré, ce matin sur France Inter, vous avez dit que parfois Canal+ était un peu trop dans la dérision et peut-être qu'il devait y prêter attention, une remarque qui n'est pas passée inaperçue.
Se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien.
D'accord, mais c'est pas très clair. Vous auriez un exemple de dérision acceptable, selon vous?
Oui, si vous voulez. Alors prenons le monde de la télévision.
D'accord.
Quelle chaîne de la TNT appartient au groupe Canal+?
D8.
Mm-hmm. Et qui a vendu D8 au groupe Canal+, il y a 2 ans?
Eh ben, c'est vous.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que j'ai fait de cet argent?
Bah, vous avez acheté des actions Vivendi, vous êtes devenu actionnaire majoritaire, donc le nouveau patron.
Voilà.
Je comprends pas.
Oh, vous seriez mon banquier, vous auriez compris tout de suite. Bon, j'explique. J'ai vendu D8 il y a 2 ans à Canal+, et grâce à cette vente, je me retrouve à la tête de Canal+, et donc, à nouveau, de D8. C'est savoureux, non? Ça veut dire que même si je vends quelque chose, au final, ça m'appartient encore. Bah pourquoi vous riez?
Parce que vous riez, patron.
Oh, vous commencez à comprendre la dérision acceptable.
Oh, il est vraiment malin, le patron. Hein. C'est pas pour rien qu'il a un yacht. Hein. Bon, la suite.
Voilà, la suite dans un instant. C'était donc PPD qui recevait Vincent Bolloré, évidemment, dans cette séquence des Guignols de l'info. Axel Poniatowski, est-ce que ce genre de satire est en danger? Est-ce que vous allez répondre
j'espère que non.
À l'appel du patron de l'Assemblée nationale.
L'humour et la dérision, ça fait vraiment partie de notre... de l'esprit français, je crois. J'ai du mal à croire que ce soit ça la raison. Je peux pas croire non plus que ce soit des raisons politiques. Enfin, ça serait juste grotesque.
Donc, c'est des raisons.
Est-ce que c'est simplement une rumeur ou est-ce que c'est l'émission elle-même qui cartonne moins ou qui a une chute de l'écoute? J'en sais rien. Mais je veux dire, je peux pas croire que ce soit pour des raisons politiques.
Pierre-Henri Tavoyot, vous avez un petit avis là-dessus?
C'est toujours périlleux quand les clowns se font défendre par des institutionnels. Ça commence à sentir un peu le roussi. Donc, je trouve cette situation assez drôle, en effet, quand les cibles.
Mais est-ce qu'il vous semble qu'il y a un danger?
Non, franchement, on peut interpréter ça. On a forcément une vision un peu complotiste quand ce genre de décision est prise. Mais je pense que l'esprit de la dérision en France n'est pas du tout en danger.
Merci beaucoup, on vous retrouve dans vraiment quelques minutes maintenant, une minute et demie. La BBC, premier groupe audiovisuel public au monde, annonce la suppression de plus de 1000 emplois en raison de la baisse de la collecte de la redevance télévisuelle. Selon les prévisions, cette redevance pour la période 2016-2017 rapportera 150 millions de livres de moins que prévu. Les gens visionnent de plus en plus les programmes en ligne ou sur leur appareil mobile. Le nombre de foyers qui possèdent un téléviseur diminue donc. Et puis ce jugement de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à propos des prothèses PIP, selon la Cour, le géant américain du contrôle TUV certificateur des prothèses mammaires frauduleuses PIP, avait respecté les obligations et n'avait pas commis de faute, engageant sa responsabilité civile. Le bulletin de Météo France, épisode caniculaire précoce qui va s'étendre progressivement aux régions de l'Est, qui va notamment gagner la région Rhône-Alpes. 7 nouveaux départements ajoutés aux 40 existants placés en alerte orange canicule. Ce sont les deux de la région Alsace, les Ardennes, l'Isère, la Moselle, la Savoie et la Haute-Savoie. Sur ces 47 départements, température maximale prévue qui resteront cet après-midi de l'ordre de 35 à 39 degrés. Un fléchissement temporaire de ces maximales de quelques degrés est attendu dans la journée quand même sur un axe allant de l'Aquitaine à l'Île-de-France et à la Picardie. Mais cet épisode caniculaire s'annonce durable, probablement au moins jusqu'à la fin de la semaine, peut-être même jusqu'au début de la semaine prochaine, en tout cas sur l'Est. C'est la fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Tara Schlegel.